et appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Et ce matin, nous lançons le débat sur le nouveau code pénal au Cameroun. Sur place, la réforme provoque un vif débat de société. Et je pense qu'au-delà des frontières camerounaises, le sujet ne va pas vous laisser indifférent. Plusieurs mesures sont vivement contestées au Cameroun, comme la pénalisation de l'adultère. C'est une question sensible au sein de l'opinion publique camerounaise. D'ailleurs, plusieurs responsables politiques et de la société civile dénoncent un délit contraire à la culture du pays. Donc on a envie de vous entendre évidemment sur ce point précis du nouveau code pénal camerounais. Des peines de prison sont également prévues en cas de non-paiement des loyers et la mendicité est désormais réprimée, ce qui fait dire aux détracteurs que cette réforme stigmatise les pauvres. Là aussi, vos réactions nous intéressent. Que pensez-vous de ces nouvelles infractions? Quelles répercussions finalement peuvent-elles avoir dans la vie quotidienne? Vous nous contactez au 33 9 693 693 70. Vos réactions sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Bonjour Maki.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Nouakchott en Mauritanie, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci beaucoup et permettez-moi de souhaiter à tous les musulmans bonne fête.
Bien.
Sur ce, l'ONU a décidé de renouveler le mandat au Mali en envoyant 2500 casques bleus supplémentaires. Mm-hmm. L'ONU va-t-elle adopter une stratégie offensive au Mali permettant d'assurer la sécurité des casques bleus? Quels sont les moyens supplémentaires qu'elle va mettre en place?
Oui.
Et quelle a été la réaction du gouvernement malien?
Oui, protéger les casques bleus, protéger également les civils. 2500 hommes supplémentaires, ce qui porte à 13300 le nombre de soldats et à 1900 le nombre de policiers des Nations Unies. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Vous êtes le correspondant d'RFI au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc renforcé les effectifs de la MINUSMA tout en lui donnant un mandat plus robuste, plus offensif.
Ah oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, en reportage dans le nord du Mali avec une délégation justement de l'ONU, sur une route, nous avons vu trois civils armés. Alors notre convoi ne s'est pas arrêté pour savoir qui étaient ces hommes armés. Interrogé, un casque bleu nous a expliqué, ceci ce n'est pas notre mission, tant que nous ne sommes pas attaqués, nous n'avons pas le droit d'intervenir militairement. Alors aujourd'hui, avec cette nouvelle résolution, les choses devraient changer, les choses vont changer en principe, parce que l'ONU peut désormais interpeller des inconnus armés. Elle aura, grâce à la résolution de préparée d'ailleurs par la France et votée par les 15 membres du Conseil de sécurité, elle aura, vous l'avez dit, 2500 casques bleus supplémentaires au Mali, soit au total désormais 13 289 soldats au lieu de 11 240 actuellement et 1920 policiers contre 1440 que nous avons actuellement. Mais il y a deux autres décisions contenues dans la résolution qui sont importantes. Il y aura du matériel militaire plus adapté, ça c'est très important, plus sophistiqué, on parle notamment d'hélicoptères. Et puis il y aura un déploiement de contingents européens qui sont spécialisés dans le renseignement One. Le renseignement c'est capital, ce qui a manqué également aux forces des Nations Unies sur le terrain actuellement, c'est le renseignement. Parce qu'il y aura 13 000 casques bleus, mais il n'y a pas 13 000 terroristes dans le nord du Mali. Ils sont beaucoup moins, à peine un millier. Le problème, c'est d'être renseigné, d'où une autre nécessité d'avoir des forces spéciales, et c'est contenu dans la résolution des Nations Unies.
Oui, avoir du renseignement, c'est vital pour ensuite mener des opérations, d'autant que cette nouvelle résolution autorise les casques bleus à mener des opérations directes contre les djihadistes.
Et ça, c'est capital. Il y a une expression que j'aime bien, c'est que la résolution, l'actuelle résolution, permet au casque bleu d'aller chercher les djihadistes à la fourchette, à l'escargot, d'aller au contact des djihadistes et de ne plus attendre d'être attaqué avant de réagir. Donc, renseignement à la base. Force spéciale à la base. En plus, la résolution permet aux milliers de Français de l'opération Barkhane qui sont installés au Mali, mais plus largement au Sahel, de prêter main forte, ça c'est une première, aux casques bleus quand les casques bleus font face à une menace grave et imminente. Donc disons qu'il y a un dispositif actuellement qui devrait permettre aux casques bleus d'aller vraiment à l'offensive. Avec un détail, c'est qu'il faut aller vite. On ne va plus attendre que le matériel vienne désormais de l'Europe, d'Europe ou des États-Unis. Mais vous savez qu'il y a une mission de l'ONU qui se termine à Abidjan, en Côte d'Ivoire à côté, au Libéria. Donc il est question de voir très rapidement comment on peut ramener du matériel de ces zones-là, comment on peut ramener des hommes de ces zones-là et non attendre toute une procédure administrative lente, comme vous savez. Avant que ces forces n'arrivent ici.
Ouais. On aura certainement l'occasion d'en parler avec les auditeurs vendredi dans la libre antenne, après donc l'adoption de cette nouvelle résolution des Nations Unies concernant les casques bleus au Mali. Serge, de nombreux observateurs sont sceptiques tout de même sur l'efficacité de ce nouveau mandat. Côté gouvernemental, on salue cette nouvelle résolution.
Je confirme, Juan, je confirme, le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop a déclaré publiquement que cette résolution prend en compte les attentes du Mali. Maintenant, en privé, vous avez des officiels qui vont plus loin, qui disent qu'ils espèrent que dans l'application de ces résolutions, que l'application de ces résolutions sera rapide et que concrètement, les 2500 casques bleus supplémentaires attendus et le matériel annoncé viendront rapidement au Mali pour participer à la lutte contre le terrorisme, mais que ce serait très actif sur le terrain parce qu'encore une fois, vous savez, c'est une guerre asymétrique que mènent les terroristes. On ne peut pas mener une guerre régulière à la régulière pour les vaincre. Il faut faire comme eux. Il faut être à deux dans le désert. Il faut être informé. Il faut faire des attaques surprises pour pouvoir les déraciner.
Maki Anouakchott, on a répondu à vos questions?
Oui, c'est parfait.
Eh bien, on remercie Serge Daniel, notre correspondant à Bamako, et bonne journée à vous. Maki, 10h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et encore des questions sur les conséquences du Brexit après le référendum il y a maintenant 2 semaines des Britanniques. Davy, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Brazzaville. On vous écoute.
Après le Brexit, un grand nombre de Britanniques semblent déplorer ces choix. Y a-t-il une possibilité que, malgré le vote, la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne?
Ah, est-ce que le Royaume-Uni peut rester dans l'Union européenne? En tout cas, samedi dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Londres pour dire non à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Certains réclament même un nouveau référendum. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour. Ouais.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Vous étiez justement au Royaume-Uni lorsque les Britanniques ont voté. Malgré ce vote, est-ce que le Royaume-Uni peut rester dans l'Europe, en tout cas dans l'Union européenne?
Alors, eh bien, en théorie, c'est possible. Il y a en tout cas plusieurs pistes qui sont étudiées par les partisans du maintien dans l'Union. Mais dans les faits, en fait, ça s'annonce assez délicat, compliqué, d'autant que de nombreux responsables européens font pression aujourd'hui pour que le Royaume-Uni lance au plus vite la procédure de retrait. Alors certains mettent en avant le fait que le résultat du référendum n'est pas juridiquement contraignant. Donc en théorie, le Parlement britannique pourrait ignorer la volonté du peuple en décidant de rester dans l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi ont plaidé plusieurs députés. Selon eux, le Parlement pourrait être amené à s'exprimer sur la révocation de la loi de 1972 sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et l'issue, là, ne ferait aucun doute, puisqu'une grande majorité de députés est en faveur du maintien dans l'Union, près de 500 députés sur 650.
Ça signifie quoi? Que le Parlement pourrait bloquer le vote?
Alors, les choses ne sont pas si simples. En réalité, il y a une vraie bataille d'experts. Certes, le référendum était consultatif, disent certains, mais ça reste un vote souverain. Et les spécialistes du droit expliquent qu'il n'a pas besoin en fait d'être ratifié par le Parlement. Et ce serait sans doute délicat à justifier puisque le Parlement a déjà eu son mot à dire en votant pour l'organisation de ce référendum.
Donc tout est question d'interprétation.
Oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un cabinet d'avocats londoniens, mandaté selon la BBC par des hommes d'affaires et des universitaires, a lancé il y a quelques jours une procédure pour exiger que le Parlement se prononce à son tour sur le Brexit. Il estime que seule une loi du Parlement peut tenir lieu de point de départ à l'activation des dispositions qui sont prévues par l'article 50 du traité de Lisbonne.
Ouais, et puis il y a, Anastasia Becchio, cette pétition qui réclame un nouveau référendum et qui a déjà dépassé, je crois, les 4 millions de signatures. On est à 4 millions...
118 000 ce matin,
c'est ça?
Effectivement. Alors en théorie, encore une fois, le Parlement peut être amené à débattre d'un texte dès qu'il dépasse les 100 000 signatures, alors là on en est très loin, mais en fait rien ne l'y oblige. En réalité, politiquement, remettre en cause le résultat du référendum serait très compliqué, ce serait vu comme un déni de démocratie tout simplement. Donc le gouvernement, en tout cas le nouveau gouvernement qui sera mis en place après la désignation du nouveau Premier ministre, ce sera en septembre, ce nouveau gouvernement n'aura pas vraiment le choix, il devra suivre la voie tracée par les électeurs. La donne pourrait toutefois changer si le prochain gouvernement tombait et que de nouvelles élections portaient des pro-Union européenne au pouvoir. Mais là, on fait de la politique fiction.
Oui, en tout cas, Theresa May, qui est pressentie pour succéder à David Cameron, a été très claire il y a quelques jours. Si elle est élue première ministre, elle mettra en œuvre le Brexit. Elle respectera le choix des électeurs. Pas question, a-t-elle dit, d'organiser un nouveau référendum. Restez avec nous, Anastasia Becchio. Encore une question sur les conséquences du Brexit. Souleymane, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, on vous écoute. Vous êtes en Guinée.
Oui, tout à fait. Lors du sommet européen à Bruxelles, la première ministre écossaise Nicholas a plaidé pour le maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Du coup, est-ce qu'un référendum est-il possible pour l'indépendance de l'Écosse au sein du Royaume-Uni ?
Alors, les Écossais, bien plus europhiles que les autres Britanniques, on se souvient, et on en a beaucoup parlé évidemment aux premières heures du résultat, il y a 15 jours, on se souvient que la première ministre écossaise avait déclaré que l'Écosse voyait son avenir dans l'Union européenne. Ce qui est sûr, c'est que ce Brexit a renforcé le sentiment nationaliste écossais. Se dirige-t-on vers un référendum sur place aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai qu'au lendemain du référendum sur le Brexit, on a vu rapidement apparaître sur les réseaux sociaux le hashtag IndyRef2 pour référendum d'indépendance numéro 2. Et dans la rue, à Édimbourg, par exemple, les gens invoquaient tous ce nouveau référendum, certains envisageant même de voter oui, alors qu'ils avaient voté non la première fois en 2014. Donc aujourd'hui, après ce choc du Brexit en Écosse, la pression est très forte pour l'organisation d'un deuxième référendum. Et Nicola Sturgeon a dit que l'option était sur la table. Elle l'a dit au lendemain de ce 23 juin. Mais elle va quand même devoir peser le pour et le contre. D'abord parce que son parti, le SNP, ne peut pas se permettre de perdre un deuxième référendum sur cette question. Et puis, parce que le contexte économique est très différent de 2014, le prix du pétrole est en chute. Or, c'est la principale ressource de l'Écosse. Donc, Nicola Sturgeon va rester sans doute très prudente. Elle a d'ailleurs récemment expliqué que légaliser un nouveau référendum prendrait beaucoup de temps.
Et il existe d'autres moyens pour l'Écosse de faire entendre sa voix.
Oui, parce que les indépendantistes écossais sont déterminés à tout faire pour rester au sein de l'Union européenne, même si ça s'annonce très délicat. Alors, Nicola Sturgeon a constitué une équipe de conseillers chargée des travaux d'approche avec Bruxelles et elle a trouvé ce moyen de pression. Le Parlement écossais pourrait en fait bloquer le Brexit, estime-t-elle. Là aussi, on est dans la théorie, dans l'interprétation des textes, plus précisément l'interprétation du Scotland Act de 1998 qui a créé le Parlement écossais et qui lui a délégué certaines compétences. Or, cette loi oblige le Parlement écossais à respecter la législation européenne à partir du moment où Londres ne se conformera plus à ses règles européennes. Il pourrait y avoir contradiction avec le Scotland Act, ou en tout cas le Parlement écossais devrait pouvoir donner son consentement à ces mesures qui sortiraient l'Écosse du champ de la législation européenne. Donc, éventuellement, un autre moyen de pression pour Édimbourg qui pourrait être amené à voter contre, par
voilà,
exemple.
Donc tous les moyens sont bons en Écosse pour rester au sein de l'Union européenne. Il y a déjà des sondages qui ont été réalisés en Écosse. Le Sunday Times donne l'indépendance gagnante à 52% et le Sunday Post à 59%. Méfions-nous tout de même encore,
oui,
faut le rappeler,
des
instituts de sondage britanniques. Merci d'avoir été avec nous, Anastasia Becchio, ce matin. Avant de repasser au standard, je vous rappelle que demain, à l'occasion de la demi-finale Allemagne-France, RFI vous proposera plusieurs rendez-vous en direct de Marseille et nous y serons sur place avec nos invités. Nous lancerons le débat sur les chances de la France. Les Bleus peuvent-ils rivaliser avec les champions du monde ? Et puisque nous serons à Marseille, eh bien nous parlerons également de l'OM, le club le plus populaire de France, étant déliquescence sur le plan sportif. La dernière saison a été catastrophique. Pourquoi ? Quel avenir pour l'OM ? Quel regard portez-vous sur cette équipe qui compte des millions de supporters à travers le monde ? Si vous êtes à Marseille, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre demain à la brasserie Les Danaïdes, Square Stalingrad. Et vous qui nous écoutez à travers le monde, vous pourrez également, comme tous les matins, réagir par téléphone et sur les réseaux sociaux. Au standard, nous accueillons maintenant pour une dernière question Eric, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute, vous avez des questions sur l'Autriche.
La Cour constitutionnelle autrichienne a annoncé l'invalidation des résultats du scrutin présidentiel qui a vu l'écologiste Alexander Van der Bellen battre de peu le candidat d'extrême droite Norbert Hofer en raison d'irrégularités. Alors, quelle a été la réaction des deux candidats et particulièrement celle du candidat écologiste? Quelle est la réaction du président en place et quelles sont les mesures envisagées pour renforcer le dispositif, notamment ce qui concerne les votes par correspondance?
Oui, les votes par correspondance qui ont fait polémique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Autrichiens vont devoir retourner aux urnes. Une nouvelle date a été annoncée hier, nouvelle élection présidentielle, donc le 2 octobre. Jean-Yves Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des nationalismes et extrémismes en Europe. C'est évidemment une décision sans précédent que vient de prendre la Cour constitutionnelle autrichienne. Les résultats de la présidentielle ont été annulés. C'est important de préciser, Jean-Yves Camus, que la Cour n'a pas constaté de fraude aux grandes dames du candidat de l'extrême droite.
Non, la Cour n'a effectivement pas constaté de fraude. Elle a constaté des manquements suffisamment répétés et suffisamment sérieux aux règles du code électoral pour toutefois annuler ce scrutin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé d'abord que certains bulletins ont été dépouillés par des personnes qui n'étaient pas les assesseurs. Ce qui est évidemment interdit, que des bulletins ont été dépouillés avant l'heure légale à partir de laquelle on peut commencer à dépouiller les bulletins. Bref, de multiples petites erreurs qui, en principe, dans un système aussi bien huilé que le système autrichien, n'auraient pas dû se produire. Il y a eu des négligences à répétition. Ce qu'il y a de plus sérieux, c'est que c'est dans plusieurs points du pays. C'est pas uniquement un dysfonctionnement d'un bureau de vote ou d'une ville. Donc c'était suffisant pour, compte tenu du très faible écart qui existe entre les deux candidats, hein, 30 000 voix, oui, pour annuler le scrutin. Alors les Autrichiens ne revoteront, précisons-le, que pour le second tour.
Tout
on
à
ne
fait.
Refait pas le premier tour, on ne refait que le second entre Van der Bellen et M. Hofer, le candidat du FPE.
Ce sera donc un troisième tour. Alors évidemment, le FPE, l'extrême droite, se frotte les mains, puisque c'est ce parti qui avait saisi la Cour constitutionnelle. Dès le début, le candidat du FPE dénonçait des irrégularités. À qui peut profiter ce troisième tour aujourd'hui?
Alors le troisième tour, il peut profiter d'abord à celui qui aura les moyens de faire campagne, je précise. Alexander Van der Bellen, contrairement à ce qui est généralement avancé, n'est pas le candidat des Verts. C'est un candidat indépendant, il a été le porte-parole des Verts pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, il est indépendant. Il est allé chercher les Verts, leur demander le soutien officiel à sa candidature, mais il n'a pas les moyens du parti derrière lui de manière automatique. Il a donc un problème de financement. Et ce problème de financement de sa nouvelle campagne, qu'il a reconnue publiquement, le FPE ne l'a pas, parce que c'est un parti qui possède un maillage extrêmement serré d'élus locaux, et d'élus nationaux d'ailleurs, dans les parlements des différents Länder, et apparemment le FPE a des réserves. Monsieur Van der Bellen va devoir, lui, faire un petit peu la tournée des donateurs.
Alors, en deux mots, on a peu de temps, Jean-Yves Camus, les deux candidats ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle, le FPE, évidemment, l'extrême droite s'en félicite. Comment, en quelques secondes, éviter ces erreurs concernant les votes par correspondance lors du troisième tour?
Bon, ça, c'est tout simplement la supervision du bureau de vote qui doit être resserrée. Enfin, dans un système démocratique bien huilé, ces erreurs ne doivent pas, ne peuvent pas se reproduire. Ouais. C'est pas le problème central. Le problème central, c'est de savoir si jamais les électeurs vont se mobiliser davantage que la dernière fois, et si on va continuer à constater ce gap extrêmement important entre le vote des villes qui ont voté massivement pour Van der Bellen et le vote des périphériques et de la campagne qui, lui, était massivement acquis à Norbert Hofer.
Nouvelle élection présidentielle en Autriche le 2 octobre. Merci Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous. Restez à l'écoute des RFI, à suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour. À tout de suite.
Priorité santé.